Mercredi 7 juillet 2021, il est 17h. Vous êtes en compagnie de Rukayat Abdourahmane pour les prochaines 15 minutes. Le journal en français, c'est maintenant. Les personnes vivant dans la zone d'accueil des réfugiés Zara d'Intikane se sont déplacées vers les villages environnants après la décision de fermer le camp. Le coordinateur de l'ONG a dit cool dans un instant. Les éleveurs Nord Tillabéri, confrontés à la crise sécuritaire et au manque de pâturage, ont abandonné la zone pour se réfugier à Mangaise et Balayara. Dans un instant, le président des éleveurs Nord Tillabéri. Le moment de dialoguer avec les groupes armés au Sahel n'est pas encore arrivé, mais les États doivent penser à préparer le terrain, a déclaré Jean-Hervé Jézéquel, directeur du projet Sahel de l'International Crisis Group. C'est dans la partie magazine de ce soir. Suite à la décision de l'État nigérien de fermer la zone d'accueil des réfugiés Zara d'Intikane dans le département de Tillia, région de Tawa, les personnes se trouvant dans ce camp se sont déplacées vers les villages environnants de la localité, a indiqué Al-Hassan Abdoulaye, coordonnateur de l'ONG Adikoul. Il fait le point de la situation au téléphone de Rafika Taher.
Comme les gens sont venus avec leurs animaux, ils se déplacent librement sur la zone. Donc déjà, il y a des villages environnants de Lazare de Intikane vers lesquels les gens se déplacent par affinité, par disponibilité des ressources pastorales, etc. Avant même l'appui des partenaires, il y a la solidarité des communautés. Donc vraiment, ces gens n'ont pas de problème. Donc, vraiment, ils sont bien acceptés et puis ils ont accès aux ressources, que ce soit les pâturages, les points d'eau et même les centres de santé là où ça existe. Je pense que le processus, il est en cours puisque ça fait pas longtemps que la décision a été prise. Maintenant, les appuis vont s'orienter en fonction des localités vers lesquelles les gens l'avancent. Pour le moment, c'est en cours, mais on sait que principalement, les gens se déplacent vers Villia, tel un peu, c'est un peu infâme. On n'a pas la situation exacte.
Le rapport de l'équipe humanitaire du Niger publié hier fait état d'environ 584 000 personnes en situation de déplacement forcé à cause de l'insécurité, dont 313 000 déplacés internes, soit le double de déplacés par rapport aux trois dernières années. Ces personnes sont installées dans 22 départements occupant 197 sites d'accueil. Depuis juin 2021, le gouvernement nigérien organise le retour des personnes déplacées dans leur village d'origine. Cette action s'inscrit aussi dans le même cadre stratégique selon le rapport de Niger Équipe Humanitaire. Les populations des villages de la commune de Lanzourou qui ont fui l'insécurité le 14 mai dernier pour se réfugier à Tillabéri sont toutes retournées chez elles. D'après le coordinateur du comité Union Tillabéri pour la sécurité et la paix, les incursions de personnes armées sont notées mais repoussées par les forces de défense et de sécurité. Ahmed Haruna Maiga.
Les déplacés sont retournés, sont bien installés chacun chez lui. L'hivernage s'est installé. Il y en a leur champ, c'est pas aux alentours des villages immédiats, qui déménagent totalement pour aller s'installer dans les champs. Jusqu'après la récolte, c'est en ce moment qu'ils reviennent. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas possible parce que les bandits, ils sont dans la nature. Et d'ailleurs, il y a juste une dizaine de jours, c'était l'autre samedi, vers 10h, 11h, des bandits ont attendu des gens dans leur champ. Ils les ont abattus froidement, trois personnes. Pour vous dire que le danger est toujours là, les FDS ont été déployés dans la zone en nombre, mais il y a juste une accalmie. Le problème n'a pas changé d'un iota parce que les refuges et les cachettes de ces bandits n'ont pas été démantelés, voire détruits. Ils font de temps en temps des descentes qui se soldent avec des morts d'hommes.
Les éleveurs du Nord Tillabéri sont confrontés à une crise sécuritaire avec les attaques des groupes armés qui emportent souvent tout le bétail. À cela s'ajoute aussi le manque de pâturage, ce qui fait que beaucoup d'éleveurs ont abandonné leurs troupeaux et se sont éparpillés dans certaines localités comme Mangaise et Balayara, a indiqué Boubacar Diallo, président du conseil des éleveurs Nord Tillabéri. Il est joint au téléphone par Tarnan Foudé Ahmed.
C'est
C'est la situation qu'on a pu constater depuis un certain temps. C'est vrai, il y avait quelques éleveurs qui sont aujourd'hui dans les périphéries de Mangaisé, qui sont là du fait de conflits communautaires. Du côté de Verbani Bangou, effectivement, vous avez des villages comme le village de Wede Bangou, le village de Bissau, le village de Intadene, où les villages se disloquent. Mais les animaux sont rentrés au Mali. C'est les populations qui ont fui qui sont dans le sud. Donc, ce n'est pas généralisé. Il n'y a que quelques éleveurs. Et eux, c'est presque des éleveurs qui viennent du côté de vers Birmingaure. Donc, c'est eux qui sont dans les périphéries de Mangaisé qu'on retrouve. Mais sinon, les grands transhumants, en tout cas le bétail, est du côté du Mali. C'est surtout les populations qui sont fixées dans ces villages-là. Malheureusement, la saison ne s'est pas encore installée. Et du coup, les gens ne savent pas où mettre la tête. Tu ne peux pas aller au Mali. Au Niger, c'est difficile de s'installer.
L'éducation en zone nomade de la commune urbaine de Kirozérine demeure une véritable préoccupation pour les responsables communaux de l'éducation. Le déplacement souvent des parents d'élèves à la recherche du pâturage et la distance qui sépare les élèves de l'école sont les principales difficultés qui freinent la scolarisation, explique l'inspecteur de l'enseignement primaire de Kiro 2, Brahim Kabir, au micro d'Ahmed Fela.
Sur les 64 écoles fonctionnelles, il y a 57 qui relèvent de la zone nomade. Donc les écoles fonctionnent avec vraiment une multitude de difficultés. Ces difficultés sont liées au mode des populations qui sont des populations nomades qui se déplacent. Et quand les populations se déplacent, c'est normal que les élèves suivent parfois leurs parents qui sont à la recherche des pâturages. C'est vrai, il y a des écoles où il y a des cantines, mais la majorité, c'est des écoles où les populations sont toujours en perpétuel déplacement. Et cela ne facilite pas la réussite des apprentissages. Il y a des élèves qui parcourent de longues distances pour venir vers l'école. À la longue, si ça continue, les élèves risquent même d'abandonner. Surtout que les parents ne sont pas beaucoup intéressés à la scolarisation des jeunes filles.
La résistance aux produits antipaludiens est un problème récurrent depuis plusieurs années dans les pays où le paludisme est endémique. Selon Dr Ila Alassane, secrétaire général du syndicat des pharmaciens, médecins et chirurgiens dentistes, l'automédication constitue l'un des facteurs qui favorise la résistance du paludisme au traitement. Il est au micro de Mokhtar Hamadou.
Il y a énormément de molécules qui se sont passées. D'autres, effectivement, ont eu des résistances parce qu'il y a des soucis maintenant qui ont résisté effectivement à un certain nombre de molécules. Et à juste titre, parce qu'il y a trop d'abus autour de la prise en charge. Parce que tout simplement, il y a ce qu'on appelle l'automédication. Ça veut dire que les gens, quand ils se sentent malades, ils estiment qu'effectivement c'est le palu. Ils ne partent pas à l'hôpital pour se faire diagnostiquer et puis prendre un traitement adéquat. Les gens s'adonnent justement à des prises de produits de manière désordonnée et sans pour autant voir un agent de santé. Donc ce sont évidemment, en tout cas tous ces éléments-là qui font qu'évidemment à un moment donné, on va créer des souches résistantes justement au traitement, et ce qui est arrivé au niveau du paludisme. Et une autre variante en fait qui est importante, si vous n'êtes pas malade, vous prenez un médicament au-delà de créer une résistance, en tout cas vous êtes en train de vous intoxiquer inutilement.
Les agents de la police sanitaire de Birnin-Konyi ont mis la main il y a quelques jours sur un lot de jus de marque exotique douteux importé d'un pays voisin. Ces agents ont indiqué que ce jus pourrait nuire à la santé des consommateurs. Ousmane Abdulmoumouni, le communicateur du district sanitaire de Birnin-Konyi, explique au micro d'Asumana Moussa.
Ce sont des fonctionnaires résidents à Konyi qui ont acheté le jus qu'on appelle exotique. Ils n'ont pas consommé le jus directement de son paquetage. Ils ont versé le contenu dans un verre et ont remarqué que ce n'est pas le colorant du jus qu'ils ont l'habitude de voir. Donc en reversant le contenu dans les verres, ils ont constaté des débris qui ont suivi le liquide. Heureusement, ils n'ont pas fait usage, Dieu merci. Au stade actuel, nous n'avons pas la certitude sur l'origine de ces débris qui s'y trouve dans ce jus. Notre hiérarchie a été informée, en l'occurrence le ministère de la Santé publique. À l'heure actuelle, des examens sont en train d'être faits pour déterminer de quoi il s'agit. Ainsi, nous avons été instruits d'informer la population de Konyi et ses environs, étant donné que cette population consomme beaucoup ce genre de jus. Nous attirons donc l'attention de la population d'être prudente sur la consommation de ce type de jus. Il va falloir même que les importateurs de ce jus à Konyi de s'abstenir à son importation.
« L'Eid el-Kébir ou fête de la Tabaski est dans moins de 3 semaines. C'est un rite musulman qui nécessite que chaque fidèle ayant la capacité l'immolation de mouton. Mais comment doit-on se procurer le mouton et dans quelles conditions? Les explications de Mustapha Ahmadou, président de l'association islamique Fawzia, au micro de Moussa Hassan.
Tout acte religieux fait au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut prendre une bonne intention d'abord de les faire. Maintenant, les conditionnalités, c'est qu'il faut avoir son propre moyen de s'en procurer cet animal-là. Ça peut être un bouc, ça peut être une chèvre, ça peut être une brebis. Et aussi, n'est pas dit qu'il faut un animal maus. L'important, c'est les rites. Comme ça, tu t'acquittes d'une obligation. Dieu est propre et saint, n'accepte que quelque chose de bon. Le crédit, c'est comme si c'était imposé une charge inutile. On ne voulait pas faire les rites de Tabaski avec le crédit. On ne voulait pas non plus les faire avec même un animal malade. Donc ce sont des choses qu'il faut éviter. Mieux vaut patienter, même si c'est la veille, ce sacrifice-là. 3 jours après la fête, tu peux les faire. L'islam veut quelque chose de propre, de saint, et c'est Allah qui le dit.
Dans la région de Tillabéri, la priorité des autorités demeure la protection de populations civiles, a indiqué le directeur du projet Sahel de l'International Crisis Group. Pour Jean-Hervé Jézékiel, le moment de dialoguer avec les groupes armés au Sahel n'est pas arrivé, mais les États doivent penser à préparer le terrain pour un éventuel dialogue avec ceux-ci. Jean-Hervé Jézékiel, directeur Sahel de l'International Crisis Group, interrogé par Tarnan Foudé Ahmed.
Dans des régions comme le Nord Tillabéri, la priorité des priorités n'est pas la lutte contre des groupes djihadistes qui sont par ailleurs transnationaux. Mais la priorité des priorités, c'est la protection des populations. Et ces populations, elles sont menacées par tout un ensemble en fait de facteurs. Oui, la présence de ces groupes djihadistes, mais aussi des formes de banditisme qui sont nées dans l'ombre de ces groupes-là. En essayant de redonner la primauté à la protection des populations, hein, et au fond en demandant aux forces de sécurité intérieure d'assumer ces missions-là, hein, et c'est difficile, on le sait, mais en leur redemandant d'assumer au fond les fonctions de protection des populations plutôt que d'aller au fond se mettre en chasse de groupes qui sont des groupes très mobiles, très structurés et qui sont aussi des groupes militarisés, donc pas à la portée au fond des forces de sécurité intérieure. La situation est extrêmement compliquée, mais au moins se donner les moyens de réduire la demande actuelle pour l'autodéfense et apporter des formes de soulagement aux populations.
Est-ce qu'aujourd'hui aller vers un dialogue avec ces groupes terroristes pourrait être une solution pour arriver à la fin de cette crise?
Il faut se rendre compte que jusqu'à présent l'outil militaire n'a nulle part réussi à résoudre cette crise-là, et que par contre le dialogue doit rester quelque part une option. Parmi ces groupes djihadistes, on a plusieurs colorations, et qu'on a des gens qui sont étrangers aux régions, sont engagés dans des formes de combat qui sont très extrêmes, et puis on a d'autres qui sont originaires, hein. Certains de ces combattants-là sont nigériens par exemple, et donc peuvent être sans doute beaucoup mieux approchés, et on peut sans doute leur faire beaucoup plus de propositions. Donc pour résumer, le moment du dialogue n'est peut-être pas venu aujourd'hui, mais par contre commencer à en préparer les bases pour demain, parce que sans doute que demain il faudra y recourir. Je pense que ce serait une idée intéressante.
Ces deux dernières années, les forces armées nationales, que ce soit au Niger, au Mali ou au Burkina Faso, sont pointées du doigt dans les exactions contre les civils. Est-ce que dans des situations comme ça, le dialogue est possible?
C'est vrai que dans les 3 pays qu'on couvre, les forces de défense et de sécurité se sont elles-mêmes livrées à des formes d'exactions contre les populations. Pour tout un ensemble de raisons, si on veut mener à bien d'abord le combat contre des groupes qui se livrent à des formes de prédation contre les populations, il faut au fond que l'exigence de très bon comportement des forces de sécurité soit beaucoup mieux garantie. C'est vrai que les États sont dans des situations difficiles, c'est-à-dire qu'elles ont un adversaire qui est coriace, un adversaire qui est terrible. Comme le disent parfois les militaires, voilà, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Je crois que c'est une très mauvaise formule. Une des priorités, si on veut vraiment stabiliser la situation, c'est vraiment de mettre la protection des civils au devant de la scène.
Abandon de l'école par les jeunes au profit de l'orpaillage à Iférouane, c'est le thème du forum de ce soir présenté par Moussa Maman. Merci pour votre fidélité. C'est tout pour ce journal. Au revoir.
Salut Fanta, une très bonne nouvelle pour toi.
Ouais, raconte, je t'écoute.
Plus de soucis pour écouter les émissions de Studio Kalangou.
Sois clair, Rabi, je veux comprendre.
Il suffit juste de composer le 325 sur ton téléphone pour suivre les émissions de Kalangou. Et ce n'est pas tout. Tu peux également écouter des messages sur la santé et la météo.
Quoi? Et partout au Niger?
Et oui, en plus, l'appel sur le 325 est gratuit. Il faut juste disposer d'une puce RTL.
Oh, merci infiniment.
le 3, 2, 5 pour suivre les programmes de Studio Kalangou au rythme du Niger.